et je suis pile dans les temps. Et je vous remercie.
Merci Christophe. Quelqu'un veut intervenir maintenant ou on accueille Camille pour la dernière communication du jour et on fait une petite discussion terminale, c'est peut-être pas mal. Oui, ça te va, ça le va comme ça ? Impeccable. Alors Camille Maillard qui est doctorante à Paris 8, je ne me trompe pas ? Voilà. Et Camille travaille sur le théâtre anarchiste. Et tu as intitulé ta communication « La compagnie du chat noir, un théâtre au sous-bassement anarcho-punk ». Tu vas peut-être dire un petit peu où tu en es dans ta thèse et présenter ce parcours doctoral autour du théâtre anarchiste. Comme... Voilà.
Bonjour à tous, merci de m'écouter. Donc tout à fait, donc, je fais une thèse sur les dialogues entre le théâtre et l'anarchisme. Donc à la fois comment les anarchistes s'emparent du théâtre, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils proposent, et aussi comment l'anarchisme est représenté sur la scène contemporaine. Donc est-ce que c'est des événements historiques, est-ce que c'est des personnages, est-ce que c'est des fictions, et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de l'anarchisme? Est-ce qu'il y a une différence entre l'anarchisme, on va dire historique, l'anarchisme mythologique, l'anarchisme par les anarchistes et un anarchisme qui serait plus populaire. Voilà. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter le travail de la compagnie du chat noir, plus spécifiquement Alain Dalmau, qui a créé cette compagnie avec sa femme, Cathy Rota, qui est dans la tradition punk, donc. Et je vais m'interroger sur la manière dont... sa philosophie punk transparaît dans ce travail. Et pour ça, je vais vous présenter notamment un court-métrage qu'il a fait. Alors, je suis désolée, j'y arrive. Ok. Est-ce que vous voyez bien ou pas ? Ouais, c'est bon. Ok, super. Alors, la compagnie du chat noir donc, a été créée en 2004 par Alain Dalmau et sa compagne Cathy Rota. Elle a pour objectif d'ouvrir des espaces d'humanité à travers la création théâtrale. Et depuis 2008, ils organisent tous les ans dans un petit village où ils sont basés en Ariège, qui s'appelle Saverdin, à côté de Toulouse, un festival de quelques jours qui s'appelle Jolibourg-Mont-Clocher. Donc c'est un village utopique, virtuel, une sorte d'hétérotopie foucauldienne qui invite à la fois comédiens et musiciens, professionnels et amateurs, adultes et enfants à présenter leur spectacle. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser à la pratique d'Alain et pour m'intéresser à sa pratique, je vais essayer de vous présenter ce personnage artistique parce que ça me paraît important pour bien remettre son travail artistique dans une histoire plus globale qu'est sa vie. Alors Alain Dalmau, il est venu au théâtre en rencontrant sa compagne Cathy Rota qui elle est intermittente du spectacle. Alain, il a eu une enfance difficile avec un père violent, réfugié politique du franquisme, une mère andalouse en situation de handicap qui décède lorsqu'il a 8 ans. Il est alors envoyé vivre chez ses grands-parents paternels, chez qui il va vivre, selon ses propres mots, un enfer. Socialement, il a du mal à s'adapter, il n'a pas d'amis à l'école, c'est pas un bon élève, et il va être envoyé dans les premiers lycées professionnels qui étaient alors pensés comme des lieux de réadaptation pour les jeunes en difficulté. On lui propose plâtrier peintre ou cuisine, il choisit cuisine parce qu'il se dit qu'au moins il pourra manger. Et c'est en 77, Alain a alors 17 ans, c'est l'année punk par excellence. Il a des ennuis avec la police, il ne termine pas son CAP et il part vivre à Toulouse de squat en squat. Entre ses 20 et ses 22 ans, il va rencontrer des gens là-bas dont il va se faire des amis. Il finit par créer un groupe de musique punk qui s'appelle Lovecraft Fraction. Et ils vont jouer notamment lors de la deuxième fête de la musique en 83, Place Wilson à Toulouse. Proudhon, Malatesta, Stirner, tous les penseurs de l'anarchisme classique, et il se rappelle qu'il avait découvert en cours de français lors de son CAP Brassens. Brassens qui l'a beaucoup marqué, il fait aujourd'hui un spectacle depuis 2000, il joue un spectacle sur Brassens qu'il a écrit à partir des textes de Brassens et sa pensée libertaire. Et donc, après cette expérience toulousaine, il va travailler comme cuisinier, saisonnier dans diverses collectivités et divers restaurants, et il va rencontrer Cathy, qui devient donc sa compagne, et ils créent ensemble la compagnie du Chat Noir, clin d'œil au cabaret du Chat Noir et au chat de la CNT. Et aujourd'hui, Alain se définit comme un ancien punk anarchiste individualiste. Il n'est pas encore... comment dire ? Sa pensée politique est encore en mouvement. Il fait aujourd'hui partie des mouvements Gilets jaunes qu'il défend corps et âme pour la mise en place d'un communalisme libertaire. Voilà, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais revenir pour essayer de positionner sa pensée. Je vais essayer de faire rapidement. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que sa pensée politique transparaît dans son œuvre, qui est un théâtre, ce que j'appelle au soubassement anarcho-punk, parce que il ne se défend pas comme un théâtre anarchiste ou punk. Et je vais m'intéresser particulièrement à deux projets. Le premier qui s'appelle Le Prophète des Toilettes, qui est un personnage qu'il a créé en 2014, qui apporte la parole libertaire. Et le second qui me paraît intéressant, qui s'appelle Au pied de mon arbre. C'est un spectacle écrit par Alain, qui a été joué par le groupe, c'est une sortie d'atelier jouée par les enfants de 8 à 10 ans, et qui parle d'anarcho-primitivisme. Donc ça me paraît aussi intéressant d'un point de vue de la pédagogie, qu'est-ce qu'on apporte à des enfants et quelles paroles on peut leur faire délivrer. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais, si vous avez 5 minutes de plus, vous montrer le court-métrage Le Prophète des Toilettes. Comme ça, ça vous donnerait une image vraiment claire de son travail. Ouais? Ok. Super. Donc, ça s'appelait Dernière balise avant chaos.
Cathy.
Chier.
Get down here.
l'extrême droite et l'extrême gauche, peut-être ils vont dire qu'ils se mettent ensemble pour renverser le pouvoir. Ensuite, ils vont se battre pour occuper la place toute chaude du Cali. On les laisse se battre, on les encourage. Après, on arrive, on vide les cadavres, on sort les blessés, et on leur dit c'est fini.
Votre mère, la liberté, elle est bien mal entourée. Allô ?
Je lui dis.
Maman, n'aie pas peur. On va te débarrasser de toute cette vermine du capitalisme. Je te bouffe. D'accord ? Ben, d'accord ? Non ? D'accord ?
Voilà, alors ça, du coup, c'était le prophète des toilettes. Je vous montre pas le spectacle pour enfants, parce que ça dure trop longtemps, et puis c'est pas intéressant. Simplement, je vais vous résumer rapidement le spectacle pour enfants, pour que vous ayez une idée de ce dont il parle. Alors, le spectacle s'appelle « Au pied de mon arbre », et il raconte quant à lui l'histoire de Victor, un berger, qui ne comprend pas que sa sœur Marguerite quitte la ferme pour aller travailler à l'usine qui s'est installée en bas de la vallée. Alors petit à petit, l'usine s'agrandit, Victor reçoit un arrêté disant qu'on préempte ses terres, il n'arrive plus à vivre puisque tout le monde est parti travailler à l'usine et plus personne ne lui achète son fromage, donc il doit vendre ses bêtes et se retrouve lui aussi à aller travailler à l'usine. Un jour, il mange son casse-croûte à l'usine, l'alarme retentit. Il est interdit de venir avec sa propre nourriture parce que ça pourrait contaminer les aliments industriels produits par l'usine. Il rencontre alors le grand patron de cette usine qui ne connaît même pas le goût des sandwichs qu'il produit parce qu'il se nourrit seulement de pilules nutritives. L'histoire finit forcément bien puisque c'est un spectacle pour enfants et Victor fait goûter son fromage de chèvre au patron qui se rappelle le goût de la liberté et les délices de la nature et cela convainc tout le monde de retourner travailler ensemble à la ferme. Alors, dans cette présentation, je vais essayer d'être assez concise, tout en soulevant quelques interrogations. Alors, qu'est-ce que pourrait être un théâtre, admettons, punk ? Quelles interrogations il faudrait qu'on soulève ? Et d'un point de vue global, il me semblerait en tout cas que ça soulève à peu près les mêmes interrogations que pour n'importe quel théâtre idéologique, et notamment les mêmes que pour un théâtre anarchiste. Donc je vais m'intéresser au croisement de ces deux idéologies que sont l'anarchisme et le punk, en me focalisant sur trois parties. Alors, ça, c'est rapidement la photo du spectacle « Au pied de mon arbre », donc le champ et l'arbre de Victor d'un côté et l'usine de l'autre. Alors, dans un premier temps, je vous parlerai de l'esthétique dans la tradition punk, du processus de création punk à l'œuvre, et enfin des ambitions communes au punk et à l'anarchisme, et des dépassements anarchistes qu'on peut voir dans le travail artistique d'Alain. Alors, concernant l'esthétique punk. Donc, Le prophète des toilettes, c'est un court-métrage qui est né de conférences radio filmées, les passages qu'on voit à la fin, qui étaient quasi des performances, qui ont été montés pour en faire un court-métrage sur proposition d'un chroniqueur radio. Le personnage du prophète se sent animé par sa nouvelle mission un matin au réveil en lisant Taureau. Il part convertir le monde. Après s'être déniché une tenue qui rappelle la tunique de Jésus, à la seule différence que c'est plutôt une toge romaine, parce que ça se porte pas pareil, mais c'est pas très grave. Et donc Alain l'appelle le Saint-Sueur en lin seul, donc lin plus loin seul. Le prophète n'est pas judéo-chrétien, mais une sorte de prophète anarcho-punk. La Sainte Couronne est en épine, n'est pas en épine, pardon, mais en barbelé. Et représente le positionnement idéologique du prophète des toilettes, on l'a compris. C'est ça, je cite, couronne anti-prise de tête. Donc ça rappelle effectivement la crête iroquoise. L'attirail est aussi composé d'un trône portatif qui est un pot de chambre, puisque, je cite toujours, le prophète des toilettes est le seul roi qui peut mettre son trône sur sa tête et s'asseoir sur sa couronne. Enfin, on a le papier culte harnaché par une chaîne. Et le punk qui est là pour choquer, pour dénoncer, pour diffuser un message à la société, ici, on pourrait le lire de deux manières différentes. Soit nous sommes tous les grenouilles de bénitier de quelque chose, ou encore convertissons-nous tous à l'anarchisme. Le message est quand même laissé à chacun de choisir ce qu'il a envie d'y comprendre. Donc dans Le prophète des toilettes, il n'y a pas beaucoup de texte, il y a plus de sous-titrage que de paroles effectives. Les paroles du prophète sont confuses, elles peuvent être perçues comme appartenant d'une musique globale, propre à l'esthétique punk, aux paroles crachées et parfois peu audibles. Les surtitres, comme je viens de le dire, en disent parfois plus que les sons. Les phrases clés du prophète sortent de slogans. Donc on a dit au cours de cette journée que ça rappelait les situationnistes, sont tantôt en lien avec la chrétienté, puisque le prophète parle d'apocalypse, de trier le bon grain de l'ivraie, ou encore de rendre à Dassault ce qui est à Dassault, tantôt des expressions anarchistes, ou en tout cas en faveur de la liberté individuelle. Donc notamment, seuls les poissons morts suivent le courant, le pouvoir est nuisible à l'homme, ou encore, comme l'a dit Kropotkine, l'entraide, un facteur de l'évolution. Donc, nous le voyons, l'esthétique joue sur une opposition binaire entre les codes catholiques et punk à travers des éléments types de l'imaginaire populaire sur ces deux thèmes, l'appel de Dieu et le réveil matin, l'accoutrement est détourné, certains symboles avilissants sont repris pour mieux être dénoncés, et enfin, les croisades sont les micro-performances prônant l'anarchisme. Cette dichotomie, comme je vous l'ai indiqué, peut aussi être poussée encore plus loin. D'un côté, nous avons le blanc du Christ contre le noir, l'espoir contre le nihilisme et la vie contre la mort. Donc, mon deuxième point va porter plutôt sur le processus de création, parce qu'on a vu que cette performance, elle n'est pas vraiment à regarder comme sérieuse ou de propagande. C'est une satire presque bouffonne qui utilise des codes religieux pour propager une philosophie politique qui voit dans la religion et dans toute institution l'asservissement des masses. Et on pourrait toutefois se poser une question qui est, à mon sens, gratuitement laissée en suspens. Est-ce que c'est une diffusion d'un idéal libertaire ou une critique de l'anarchisme pour ce qu'il a d'idéologique ? Donc, c'est aussi à cette question-là que je vais essayer de répondre dans cette seconde partie sur le processus de création. Alors, la philosophie punk ne transparaît pas que dans l'œuvre finale. Tout d'abord, la création de ce court-métrage est née d'une proposition d'un chroniqueur radio, pardon, de l'inclure dans une programmation d'un petit festival de court-métrage dans le Tarn. Ça a été décidé collectivement par l'ensemble de la compagnie de créer ce court-métrage en 15 jours, avec aucune compétence technique de la part de chacun des membres. Donc Anne-Marie, une amie, construit sur les propositions d'Alain le premier jet d'un scénario. Ils le retravaillent collectivement. Les scènes sont filmées chez Anne-Marie, puis dans Toulouse, et ensuite montées par Christelle et Cathy. Et à ces scènes, ils intègrent des extraits de chroniques radio, comme on l'a vu, sorte de performance. Et donc ça correspond au travail en do it yourself, donc une réalisation sans compétences particulières de la part des artistes. La musique, quant à elle, n'est pas composée par Alain, c'est différents groupes. Donc on a Alléluia de Didier Super pour commencer, Organized Confusion de The Addicts, un groupe punk d'origine britannique formé en 75. Le troisième morceau s'intitule A Spy in the Cab du groupe Bauhaus, un groupe rock gothique britannique. On a Viva la Revolution de The Addicts toujours, et enfin Alligator 427 de Thiéphen pour terminer. Alors, si les punks avaient une méfiance d'un point de vue musical pour les maisons de disques et l'industrie du disque en général, la compagnie du Chat Noir, quant à elle, conserve un rapport assez mitigé avec l'industrie théâtrale. Les locaux dans lesquels ils travaillent et dans lesquels ils organisent le festival sont des locaux municipaux de la commune de Saverdin. Ils touchent 300 euros par an de cette même commune. Et l'année dernière, pour l'organisation du festival, ils ont eu une aide de 2500 euros parce qu'ils faisaient venir des compagnies professionnelles avec des spectacles qui coûtaient relativement cher. Et donc là, c'est l'association culturelle de Saverdin qui leur a octroyé cette aide de 1500 euros. Par ailleurs, Alain Dalmo vit d'un contrat aidé auprès de la compagnie, et Cathy Rota, quant à elle, est intermittente du spectacle. Donc, en un sens, ils participent d'un système du monde du spectacle vivant. Mais il me paraissait quand même nécessaire de noter que cette attache, pardon, à l'économie dominante du théâtre contemporain ne leur sert qu'à faire vivre la compagnie et donc les ateliers de représentation. Ils sont relativement précaires, ils ne reçoivent pas d'aide nationale ni régionale de type DRAC. Le festival qu'ils organisent est ouvert à toutes et à prix libre, sauf pour, donc, comme je le disais, les spectacles qu'ils font venir et qu'ils payent. Les conditions sont annoncées à l'entrée du festival, généralement avec un petit panneau sur lequel il est inscrit « Participation libre et nécessaire ». Vous êtes nantis, laissez-nous votre portefeuille et si vous n'avez rien, entrez, on vous invite. Donc seuls les spectacles que la compagnie achète sont tarifés à 8 ou 9 euros en fonction du spectacle et toujours en fonction des revenus. Sinon, tout est gratuit. Et j'essaye de faire vite. La question de l'invisibilisation aussi de ces formats théâtraux, je pense, correspond... Enfin, en tout cas, il me semble que d'un point de vue sociologique, on peut la rapprocher aussi de l'invisibilisation des populations. Notamment ici, donc c'est en Ariège, c'est des territoires qui sont très précaires. Et je pense qu'il y a un lien, en tout cas, à travailler. J'y répondrai pas tout de suite, parce que c'est pas du tout un travail que j'ai amorcé. Mais en tout cas, mon intuition me dit que c'est... peut y avoir un lien, en tout cas, entre ces formats artistiques et les lieux dans lesquels ils évoluent. Donc, comme je viens de le montrer, l'œuvre artistique de la compagnie, et plus particulièrement d'Alain, semble être une caisse de résonance de sa construction identitaire personnelle, punk et individualiste. Mais je vais aussi vous montrer dans cette troisième partie qu'on peut essayer de voir un dépassement, une extraction de l'idéologie punk. C'est en tout cas l'ambition de ma troisième partie. Je vais m'intéresser plus spécifiquement au spectacle pour enfants qui a été représenté l'année dernière pour l'édition 2018 du festival Jolibourg-Montclocher. Donc, tout d'abord, au pied de mon arbre, c'est conçu de la même manière que le prophète des toilettes, dans une tradition de do-it-yourself. Alain Dalmau, qui n'a absolument aucune formation théâtrale, se révèle être dramaturge, puisqu'il écrit la pièce. Il est aussi metteur en scène, pardon. Il n'a pas du tout de formation de professeur de théâtre. Il avait fait une formation de conférence gesticulée qui n'a pas abouti. Il gère un atelier de théâtre pour enfants. Et il se révèle aussi metteur en scène et scénographe, puisqu'il a conçu l'esthétique de la pièce, et c'est lui-même qui a créé les décors en carton-pâte. Donc tous les costumes pour enfants sont en carton-pâte, et c'est lui qui les fait. Alors, ce spectacle rejette l'aliénation du travail et la conception contemporaine du travail comme lieu d'épanouissement et de reconnaissance sociale, alors même que l'employé travaille dans des conditions liberticides. C'est notamment ce que nous présente un des extraits que je vais vous lire. C'est une conversation entre Victor le berger et Marguerite, sa sœur, qui veut aller travailler à l'usine. Et Marguerite lui dit « Mais si, j'ai besoin d'évoluer, tu comprends ?» Ce à quoi Victor répond « Ah non, rien du tout. T'es pas heureuse ici avec nous ?»« C'est pas ça, j'ai besoin de travailler, c'est tout. »« Mais pourquoi faire, sa perlipopette ?» Eh bien, pour gagner de l'argent, t'es pardi. Oui, parce que c'est aussi parfois en ariégeois. De l'argent, mais pourquoi faire ? Bah, pour acheter une voiture, par exemple. Une voiture, mais pourquoi faire ? Bah, pour aller travailler. Voilà, donc ça montre l'ineptie du travail salarial et de l'industrialisation. Et je pense qu'on est aussi sur une ambition commune aux idéologies punk et anarchistes que sont l'autogestion et l'autodétermination. Qui sont vraiment au cœur de ce spectacle. Bien qu'Alain se dise individualiste, il présente plutôt dans ce spectacle un collectivisme, au-delà de l'individualisme qui est fréquent dans la pensée punk. Ce spectacle ne rejette pas la liberté individuelle, mais propose, en tout cas laisse à penser que le collectif est primordial et que le collectif prévaut sur les ambitions individuelles. Donc là, notamment, la construction collective de la ferme et son maintien permettent à chacun et chacune de vivre décemment. Lorsque l'usine, bien qu'elle permette une autonomie individuelle grâce au salaire, est un lieu d'enfermement et de contrôle qui réduit donc à terme les libertés à la fois individuelles et collectives. Au-delà de ce collectivisme, on touche du doigt la pensée donc anarcho-primitiviste qui s'inscrit dans un rejet radical de la révolution industrielle et productiviste. On est aussi, d'une certaine manière, en contradiction avec la pensée punk, qui rejette la nature et célèbre l'artificiel. Le nihilisme punk se trouve aussi dans ce rejet de la nature, dont la logique était un peu nous sommes dans une civilisation bétonnée, nous ne la changerons plus, donc cohabitons avec. Sauf qu'ici, Alain, peut-être aussi qu'il n'est pas victime de ce désenchantement parce que sa construction punk s'est faite dans la campagne ariégeoise, toujours, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un enfant de la campagne et il défend un écologisme fort. Dans le spectacle, le savant fou s'appelle Glyphosios, son robot Destroyx. L'absurdité de la production de masse et du mal-être animal est notamment dénoncée par Victor, qui dit « C'est vrai que depuis que mes chèvres sont enfermées toute la journée dans la bergerie, elles ne font plus de lait. Qui dit plus de lait, dit plus de fromage. » Il dénonce aussi une biopolitique, donc les individus reçoivent des injonctions à travailler plus vite, mieux, à ne consommer que des aliments industriels et à respecter une hygiène irréprochable. Il fait ici un clin d'œil à notre société bardée de slogans tels que « manger 5 fruits et légumes par jour » et aux ravages que causent par exemple les perturbateurs endocriniens dans les produits, par les produits transformés. Enfin, il critique pas la science en tant que telle, mais son utilisation, puisqu'à la fin, c'est quand même la science qui permet aux bergers de soigner ses bêtes. Donc, il y a cette scène où Destroyx, qui est devenu le robot de la ferme, se met en alerte. Et donc, il crie « Alerte, alerte rouge !» Il écarte les bras pour empêcher les autres de s'approcher trop près. « Plus un geste, veuillez respecter le périmètre de sécurité !» Il se baisse et ramasse quelque chose délicatement, puis l'observe. Destroyx dit « Encore un étourdi qui ne regarde pas où il met les pieds. Cette abeille a deux pattes cassées. » Sahel lui répond « Et c'est grave, docteur ?» Et Destroyx dit « Point du tout, je vais réparer ça en quelques minutes, mais il conviendrait d'être plus délicat à l'avenir. » Donc la science qui était à la base à l'usine un outil capitaliste devient vraiment un outil écologique. Et comment est-ce qu'on peut utiliser la science à bon escient ? Alors, si le spectacle Au pied de mon arbre représente un nihilisme, c'est plutôt celui de la théorie anarchiste que du punk. Le nihilisme d'Alain n'est pas du tout dans un rejet de l'autre ou dans une phobie du dominé, il est plutôt dans un rejet du monde tel qu'il est, inégalitaire et absurde. Et donc on a bien vu que malgré la culture do it yourself dans laquelle s'inscrivent les différentes créations d'Alain, les moyens de production de la compagnie que je vous ai présentée, on peut aussi voir que certaines thématiques dépassent les ambitions punk pour s'inscrire plutôt dans la philosophie anarchiste. Et c'est sur cette complexité que je vais terminer mon analyse, sur les possibilités d'un théâtre anarcho-punk, en soulevant une dernière interrogation. Donc, au-delà de la résistance passive du punk, Alain Dalmau propose la mise en place d'une société anarchiste, continuité de sa dénonciation politique. Donc, serait-ce ici que l'esthétique théâtrale punk se situerait, aux prémices du théâtre politique militant et didactique ? Est-ce que le punk révélerait, caricaturerait, dénoncerait à travers son esthétique, tandis que l'anarchisme, quant à lui, proposerait une alternative politique et sociale et se situerait ainsi plutôt du côté du discours, de la dramaturgie textuelle que de la mise en scène, d'un point de vue de la narration. Donc c'est quelque chose qu'il me reste en tout cas à analyser. Est-ce que cette empreinte artistique pourrait s'inscrire dans un sous-genre de ce que pourrait être la contre-culture du théâtre anarchiste ? Je vous remercie pour votre attention.
Eh bien, merci Camille pour cette communication. On avait dit qu'on laisserait peut-être une ou deux questions.
Oui,
on va conclure, mais bon, il y avait des questions peut-être à la fois pour la communication de Camille et éventuellement pour celle de Christophe aussi sur Sexy Sushi. Donc tu es là, Christophe ? Je te vois pas. Oui, il est là. Voilà. Donc vous avez la parole. On a 5 petites minutes pour questionner nos intervenants.
Tout le monde est mort. Ah, François.
Allez. François, qui se lance.
Donc, tu as fait référence donc au théâtre anarchiste et tu as pas cité Dario Fo, mais est-ce qu'il y a des connexions ? Et apparemment aussi tout repose sur un personnage qui est donc Alain. Est-ce que il a pas pu créer une troupe ou alors est-ce que c'était volontairement qu'il se positionne tout seul. Voilà deux questions, une en liaison avec les autres théâtres anarchistes qui ont existé et qui se présentaient comme tels, sans être punk évidemment. Et puis lui en tant que personnage central de sa propre histoire, quoi, de son propre destin personnel.
Oui, alors concernant le théâtre anarchiste, J'ai pas terminé de rédiger ma thèse, mais c'est tout l'enjeu de savoir si on peut qualifier un théâtre d'anarchiste. À mon sens, il semblerait exister des théâtres anarchistes qui ne se revendiquent pas d'un sous-genre ou d'une contribution commune. Il y a des multitudes d'individus anarchistes qui utilisent le théâtre, mais qui l'utilisent de manière très très différente. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup théorisé sur le théâtre politique et le théâtre militant, mais on n'a jamais dit de quelle idéologie on parlait. C'est aussi un des enjeux. Est-ce que quand on parle d'une idéologie spécifique, on peut vraiment catégoriser un théâtre comme tel ? Comment les gens s'en revendiquent ? Il y a eu effectivement Dario Fo, qui était anarchiste, qui faisait du théâtre. On a aussi Armand Gatti en France, qui était anarchiste. Alors c'est toujours pareil, la question de la remise en question de la domination de l'acteur sur le spectateur, du metteur en scène sur le comédien. Toutes ces questions-là, elles n'ont pas forcément été posées, et du coup, je peux pas vraiment répondre. Alain et Cathy, donc ils ont la compagnie du Chat Noir. J'ai beaucoup parlé d'Alain aujourd'hui parce que c'est lui qui provient vraiment de cette tradition-là. Il n'essaye pas dans le cadre de sa compagnie de créer un théâtre anarchiste. Pour eux, on fait du théâtre populaire. Il est important que tout le monde ait accès au théâtre, mais ils sont pas là pour passer un message politique. Après, dans les spectacles qu'Alain a voulu créer seul, avec l'aide des autres membres de la compagnie, mais qui étaient en tout cas à son initiative, il y a cette influence punk et cette influence anarchiste qui est revendiquée, mais c'est des projets qui sont presque annexes à la compagnie, parce qu'ils veulent pas non plus que la compagnie puisse pâtir d'une manière ou d'une autre de cette influence-là. Voilà, donc mais Cathy est très importante dans cette construction aussi, mais en tout cas pas à l'initiative des projets, donc j'en ai moins parlé. Voilà.
Bien, d'autres questions, d'autres réactions, remarques ? Oui ? Christophe. Allez, vas-y, Christophe.
Bonjour, pourquoi tu t'es intéressé à lui ?
Alors, en fait, quand dans le cadre de ma thèse, j'ai fait un terrain de presque un an où je suis partie à la rencontre des artistes. Alors d'abord des artistes qui travaillaient sur des personnages historiques anarchistes, parce que Google est pas du tout mon ami dans cette recherche. C'est du très long terme de rencontrer des gens, le bouche à oreille, d'intégrer des réseaux. Et il y a beaucoup de personnes de mon corpus qui m'ont contactée, parce que il y a aussi cette question du rapport à l'institution. Je fais partie de l'institution, je travaille pour l'université, ma thèse appartient à l'université, je suis payée par l'université, et donc il y a aussi des gens qui n'ont pas envie, qui ont envie d'être invisibles, ce que je comprends tout à fait. Donc ce sera un gros biais, notamment dans ma recherche. C'est Alain qui m'a contactée en me disant, j'ai reçu un message vocal un jour sur mon téléphone, j'avais pas de réseau, et j'écoute mon message vocal, et on me dit oui, bonjour, je m'appelle Alain Dalmo, je suis un ancien punk à chien, enfin non, j'avais pas de chien, mais du coup mon travail peut vous intéresser. Et voilà, et en fait il s'avère que dans tous les artistes, j'en ai trouvé une centaine en France qui travaillent sur l'anarchisme et qui font du théâtre, ou qui se revendiquent anarchistes et qui font du théâtre. Et j'en ai que deux qui, pour moi, peuvent correspondre à une esthétique punk, ou en tout cas s'en revendiquer. Et donc Alain, qui pour moi est vraiment le plus emblématique, parce qu'il a une vraie filiation et lui-même s'est construit dans les milieux punk. Et après, peut-être que vous connaissez Jean-Louis Coste, qui pour moi, dans son esthétique, vraiment travaille sur cette question-là, et qui pour le coup s'en défend, parce qu'il m'a parlé de vaudou haïtien et pas du tout de punk. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est plus le fait de mon travail. Les autres sont plutôt sur une attitude collectiviste et vraiment mise en place de toutes les nouvelles revendications anarchistes, LGBT, écologistes et tout ça. Et donc voilà, du coup, il s'avère que c'est le seul qui, pour moi, est vraiment dans une attitude punk. Mon choix s'est fait par défaut.
Merci beaucoup.